Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 3 juillet 1991.
Troisième jour. Je vais être un peu habitué, donc maintenant on peut y aller à fond. Puisque premier jour on s'habitue un peu, le deuxième jour on fait quelques exercices, et maintenant votre intelligence doit être tout à fait prête à entrer le plus loin possible, toucher le sommet de l'Himalaya, faire cette grande montée. Je voudrais, avec vous, aujourd'hui, au moins ce matin, et cet après-midi en répondant aux questions, voir qu'une philosophie de la religion repose sur la découverte par l'intelligence humaine de l'existence du Dieu créateur. Je crois ça très important. Si on est catholique, l'Église nous dit, c'est dans son enseignement, Concile Vatican I, que l'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence d'un être premier. J'ai fait toute l'enquête parce que ça m'intéressait. On peut dire qu'à travers tous les pères de l'Église, il y en a un seul, mais tous les pères de l'Église affirment cela en s'appuyant sur les textes même de l'Écriture. Ils sont nombreux, je les ai relevés, tous les textes que les pères de l'Église prennent. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même toute une série. Vous pouvez facilement les trouver dans De lettres à Dieu, Topic historique 2. J'ai relevé tous les textes. C'est impressionnant du reste, parce qu'on croit que c'est donné qu'une fois. Non, non. À travers toute l'Écriture, on peut dire qu'il est dit que par le visible, on atteint l'invisible. Donc, toute l'Écriture lutte contre le positivisme dans lequel nous peignons. On n'accepte que ce qu'on voit. On n'accepte que ce qu'on est capable de mesurer. C'est un fait, ça. La connaissance scientifique moderne. On n'accepte que ça. La connaissance scientifique, très bien, merveilleux, mais n'oublions pas que ce n'est pas suffisant. Pour l'homme, je dis pour l'homme, pas pour le savant. Pour le savant, sa science lui donne l'honneur et la gloire, donc c'est suffisant. Mais pour l'homme, ce n'est pas suffisant. L'homme est fait pour autre chose que l'honneur et la gloire. Il est fait pour un bonheur intérieur, pour aimer. Et pour découvrir ce que c'est que l'amour, il y a un véritable amour d'amitié et la contemplation, s'il a découvert l'existence de Dieu. Et tous les pères de l'Église disent que l'intelligence humaine peut affirmer l'existence d'un être premier que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, et que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de dire ce qu'il est. Mais cependant, elle essaie de s'approcher le plus possible de sa manière d'exister. C'est ce que saint Thomas reprend d'une manière géniale dans ce qu'on a appelé les cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Au début de la somme, il faut, je crois, une fois dans sa vie, au moins, avoir lu ça. Je ne vais pas le faire avec vous, hein, parce que ça prendrait tout notre cours. Mais vous pouvez le faire facilement. Hein. Surtout ici. Vous ne comprendrez rien. Ça n'a pas d'importance. Les cinq voies d'accès. Voyez, c'est beau. Comme ça, vous comprenez. Hein. Ce que Heidegger dit magnifiquement, sans parler des voies de saint Thomas, il dit, dans une forêt, on voit les grandes avenues qui conduisent à un centre. Alors, il y a Lichtung, Licht, ça conduit à la lumière. C'est très beau. Les cinq voies d'accès de saint Thomas. Cinq expériences. Cinq grandes expériences. Et ces cinq expériences, si on les éclaire par un principe métaphysique, le principe de finalité, on voit la nécessité de poser un être premier, nécessaire, un être premier qui est esprit, qu'on appelle Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu. Vous voyez, c'est cette grande montée, on pourrait dire, hein, que saint Thomas résume dans les cinq voies. Saint Thomas n'en invente aucune. Mais il a eu ce génie de rassembler les cinq originales. Toutes les autres sont secondaires. Il donne ça au début de sa somme. Question 2 de la somme. De sa somme théologique. Je vous dis, il faut avoir une fois dans sa vie ça, parce que c'est quand même quelque chose de grand. Et si vous voyez toute la littérature qui a été là-dessus, je le sais parce que à Fribourg, il y avait de temps en temps des thèses d'étudiants là-dessus, sur la première voie, sur la seconde voie. Alors vous voyez tout ce que le pauvre étudiant devait lire pour arriver à dire quelque chose de nouveau. Parce qu'une thèse, il faut dire quelque chose de nouveau. Petit herbe qui a poussé, là, qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que c'est facile de faire une thèse sur un illustre inconnu, sur laquelle il y a 10 mètres de terre au-dessus, et qu'on découvre, qu'on ne pense pas du tout, on fait une thèse magnifique, personne n'a pensé à lui. Mais c'est toujours un peu comme ça, hein. On découvre. Mais au point de vue de la pensée, c'est difficile. Après Thomas d'Aquin, de dire quelque chose de nouveau au plan métaphysique. Quand on critique saint Thomas, dites-vous toujours qu'on a affaire à un saint qui a une foi extraordinaire, et qu'on a affaire à une intelligence d'une curiosité étonnante. Ce qu'il y a de plus remarquable dans saint Thomas, c'est sa curiosité d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et l'alliance des deux donne sa théologie, puisque c'est ça la théologie, c'est la coopération de l'intelligence à la foi. On est persuadé en tant que croyant que ce que Dieu nous dit est plus intelligent que ce que les hommes découvrent. C'est élémentaire ça. Et par le fait même, on sait que la parole de Dieu a des sens infinis et qu'on peut creuser indéfiniment. C'est ça l'appétit du théologien. Il cherche tout le temps. Alors saint Thomas nous donne ça dans sa somme théologique. Et l'erreur des thomistes, de beaucoup de thomistes, c'est de croire que c'est philosophique. Alors que c'est théologique. C'est pas la même chose. Vous allez tout de suite comprendre. Saint-Thomas, vivant au Moyen-Âge, en chrétienté. C'est vrai, au Moyen-Âge, il vivait en chrétienté. Toute la culture était chrétienne. Le christianisme montrait ce qu'il y avait de plus grand dans l'humanité. C'est très très curieux, ça. Hein. Où les laïcs ont repris le dépassement, c'est avec la science. Et la philosophie, gardée par les moines. La théologie, gardée par les moines. L'art, gardé par les moines. C'est un fait. Ça pouvait être un peu étouffant de temps en temps, c'est vrai, mais au fond, c'était eux qui gardaient. Et alors, dans notre histoire, hein, de l'Europe, c'est avec le développement de la science, mathématiques et surtout les sciences modernes, physique, astronomie, toutes les sciences, biologie. Alors, les laïcs ont repris leur vengeance, j'allais dire, de ne plus être les minores, ceux qui étaient enseignés. Ils sont devenus ceux qui portent le drapeau. En gros, c'est ça. À tout point de vue. Et point de vue art, ça a suivi. Alors, c'est intéressant de comprendre Thomas d'Aquin qui est juste avant la déconfiture théologique, si j'ose dire ça. Le XIVe siècle représente une dégringolade. Aujourd'hui, on aime les dégringolades, alors on aime beaucoup le XIVe siècle. Mais si on cherche ce que c'est que la vérité, on voit que la grande montée de l'Évangile à Thomas d'Aquin, il y a une montée. Avec des petites baisses, c'est évident. Il y a des repos, il y a quelquefois des chutes, mais il y a une montée. Intellectuelle, je parle de l'intelligence ici. C'est au point de vue de la foi. Et je crois que Thomas d'Aquin touche un sommet. On n'aime pas beaucoup les sommets aujourd'hui. Hein. Parce qu'on est petit à côté. Un sommet dans la recherche intellectuelle, dans la recherche théologique. Personne n'a dit des choses aussi pénétrantes que Thomas d'Aquin. Au point de vue théologique, je dis bien au point de vue théologique, il n'a pas fait de philosophie. Il n'avait pas besoin d'en faire parce qu'on vivait en chrétienté. Donc c'est un théologien. Il faut demander à Thomas d'Aquin sa mission. C'est un religieux. Il est entré dans l'ordre de Saint-Dominique contre l'avis de ses parents. Ses parents auraient voulu qu'il soit bénédictin et abbé, évidemment. Il est entré dans cet ordre nouveau qu'étaient les dominicains, les frères prêcheurs, un ordre de pauvres. Puisque c'est la pauvreté. Mais c'est comme ça d'entrer aujourd'hui dans la communauté Saint-Jean. C'est un ordre de pauvres. Un ordre qui commence. Il n'a pas encore de fin. Alors c'est un ordre de pauvres, de petits. Il faut accepter, du reste. C'est comme ça que l'Église se renouvelle tout le temps. C'est par la pauvreté. Tout le temps, on reprend toujours, parce que c'est évangélique, la pauvreté. Alors on reprend toujours par le bas. C'est très curieux, parce que Thomas d'Aquin nous fait comprendre, voyez, ce que représente aujourd'hui la vocation de certains qui peuvent avoir une intelligence extrêmement forte, et qui, plutôt que d'entrer à droite ou à gauche, je ne nomme pas, entre par cette petite porte. Thomas d'Aquin fait une œuvre de théologien. Alors, les cinq voies de saint Thomas, c'est essayer de comprendre, en théologien, comment l'intelligence humaine est capable de découvrir l'exister, l'être premier, la première exister, l'exister premier, l'être premier, qu'on appelle Dieu. de saint Thomas, c'est ça. Dans sa foi, saint Thomas sait que Dieu existe. Il sait que l'intelligence humaine est une intelligence capable d'aller jusqu'à Dieu. Il le sait par toute la tradition. En théologien, il veut montrer comment on peut le faire. C'est le comment on peut le faire. Il veut expliciter ce qui, chez les pères de l'Église, est souvent à l'état très intuitif, très simple. Alors, il veut montrer, dans une perspective critique, de réflexion critique, comment l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Et affirmer, il est nécessaire qu'un être premier existe. Il est nécessaire qu'un être premier existe. Ben, tout le but de saint Thomas. Vous voyez, il faut bien voir ça quand on lit cette question 2. C'est un théologien qui sait que Dieu existe dans sa foi, qui sait que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Alors, il nous donne une carte Michelin de l'itinéraire. Avant, il n'y avait pas de carte Michelin de l'itinéraire. Avant que saint Thomas nous donne ça. Alors, saint Thomas nous donne ce plan étonnant, merveilleux. Ça aboutit à 5 voies. Il y a 5 voies, 5 itinéraires. Premier itinéraire, itinéraire bis, itinéraire... Et ainsi de suite. 3, 4, 5. Et on ferme la boucle. Et pour saint Thomas, il n'y a pas d'autre itinéraire. C'est les 5. Et d'une certaine manière, c'est les 5 en même temps. Tellement c'est difficile de monter jusque-là. Et cet itinéraire est très simple. On part de l'expérience. Ceci est mu. On part de l'expérience. Ceci est mu. Dans l'univers, il y a des réalités qui sont mues. Je me meux. Ceci est mu. Tout ce qui est mu, tout ce qui est mu, dépend d'un autre. Parce que ce qui est mu est en puissance. Donc, il dépend d'un autre qui est en acte. On éclaire l'expérience par un principe qu'on a découvert avant. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Donc, il existe un premier être au-delà du mouvement. Et ce premier être au-delà du mouvement, c'est ce que les traditions appellent Dieu. C'est très simple comme schéma, très très simple. La seconde voie part, il y a des réalités qui se meuvent. Il y a des vivants. Le vivant, c'est celui qui se meut. Alors, on éclaire cette expérience par un principe. Tout ce qui est mu, tout ce qui se meut, dépend d'un autre, dans l'ordre de l'être. Parce que s'il se meut, ça prouve qu'il est en puissance pour acquérir quelque chose. Quand vous avez tout, on ne se meut pas. On reste en soi. Alors on éclaire cette expérience par un principe et on aboutit à l'existence d'un être premier. Oui. Donc, demandons à saint Thomas ce qu'il veut nous donner, pas plus. On en a fait des voies d'accès au plan métaphysique, ce qui est faux. Le problème se pose tout à fait autrement en métaphysique. C'est ce que nous allons voir. Et je crois qu'on a très mal compris les cinq voies de saint Thomas. Même par Hittin. Le dernier qui a donné des explications intéressantes, mais qui, je crois, ne voit pas assez que saint Thomas est un théologien. Pour saint Thomas, le philosophe, c'est Aristote. Tout le temps. Et vous savez bien, saint Thomas ne savait pas tellement bien le grec. Pour lui, on a retraduit les grands textes d'Aristote en latin. Pour qu'il ait ce contact direct avec Aristote. Parce que avant saint Thomas, on avait contact avec Aristote par Avicenne. Avicenne, musulman, espagnol, est mort. Un cerveau extraordinairement intelligent, merveilleux d'intelligence. Donc arabe, espagnol, vivant en Espagne. Alors, il a fait une synthèse, Avicenne, entre, par le néoplatonisme, entre Aristote et puis le néoplatonisme. Et saint Thomas a senti tout de suite ça. Ça, c'est le génie de saint Thomas. Que c'était pas pur, qu'il y avait un alliage. Il a voulu revenir directement à Aristote. Et alors, comme il ne savait pas suffisamment le grec, il perdait du temps. On lui a donné quelqu'un pour traduire tout Aristote en latin, un mot, un décalque. Et saint Thomas s'est servi d'Aristote et a rectifié par là son maître, Albert le Grand, qui lui était resté avec Avicenne. Mais la Sorbonne de Paris, se sentant dépassée par Thomas d'Aquin, a condamné Thomas d'Aquin. Pas Rome, hein, mais la Sorbonne de Paris voulait être plus catholique que le pape. Ça lui arrive. Alors, elle a condamné certaines thèses de Thomas d'Aquin. C'est très important, ça. En disant Thomas d'Aquin est revenu aux païens comparativement aux musulmans, qui étaient un croyant. Croyait dans le Dieu créateur. Et ceci a fait que saint Thomas n'a pas eu de vrai successeur. On le mettait un peu en suspicion. Il a fallu que Rome le réhabilite. Ça s'explique beaucoup. Alors après saint Thomas, les grands théologiens reviennent à Avicenne. Et donc au néoplatonisme. À Plotin. Ça, c'est l'histoire. Mais c'est intéressant de voir ça, parce que ça explique beaucoup de choses. Saint Thomas vivait en chrétienté. Nous ne vivons plus en chrétienté, puisque nous avons devant nous ces sept grandes formes d'idéologie athée qui disent que Dieu n'existe pas. Et l'Église continue de nous dire votre intelligence humaine par elle-même, peut découvrir l'existence de Dieu. Et en tant que croyant, vous devez faire cet effort pour répondre aux idéologies athées. C'est l'Église qui nous mobilise. C'est l'Église qui nous dit de le faire, cet effort. C'est un grand effort. L'Église le reconnaît. Parce que si on ne travaille pas beaucoup, on n'y arrive pas. Mais tout être intelligent peut y arriver. S'il n'est pas déformé, s'il n'a pas d'a priori affectif contraire, s'il est intelligent, s'il cherche, c'est important de comprendre ça. Alors, nous nous plaçons de ce point de vue-là. Comme on est en face d'idéologie athée, qu'on est en face de Kant, qui a dit que l'intelligence humaine ne peut atteindre l'existence de Dieu que par la morale, impératif catégorique. La conscience, la responsabilité. Aujourd'hui, des quantités de théologiens, pour ne pas dire la grosse, grosse majorité, on m'a dit à Rome, quelqu'un qui connaissait bien la chose, il m'a dit, entre 85% et 95% de théologiens d'aujourd'hui ne reconnaissent plus que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Et l'Église appelle cela des fidéistes, parce qu'ils disent que seule la foi nous permet d'atteindre l'existence de Dieu. Et je dis ça très important, parce que si vraiment on ne peut plus atteindre l'existence de Dieu par notre intelligence, il n'y a plus de philosophie de la religion. Je ne peux plus justifier raisonnablement, intellectuellement, philosophiquement, que l'homme est un animal religieux. Je l'accepte dans la foi, mais tous ceux qui n'ont pas la foi, je les laisse dans les ténèbres. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que le problème se pose aujourd'hui avec une extraordinaire acuité, si on est chrétien. Le Concile me demande ouverture au monde. Qu'est-ce que je vais dire au monde si je ne sais pas ce que c'est que l'homme dans toutes ses dimensions? Si je ne sais pas ce que c'est que la personne humaine dans toutes ses dimensions? On voit très bien, voyez, le problème de l'avortement. Comme même les chrétiens sont divisés, ils ne savent plus quels sont les arguments qu'ils peuvent donner. Les arguments pour les chrétiens, les arguments pour ceux qui croient que l'âme est créée par Dieu, et les arguments pour les incroyants. Est-ce qu'une loi comme Simone Veil a donnée est une loi qui peut être respectée par l'homme, tout simplement l'homme? J'ai connu une femme médecin, psychanalyste, quand elle a lu la loi de Simone Veil, elle a écrit à son collègue qui avait fait serment d'Hippocrate. C'est très grave ce que vous avez fait. J'ai lu la lettre. C'est très grave ce que vous avez fait. Vous verrez qu'en faisant ça, vous tuez la France. Évidemment, elle n'a pas eu de réponse. Elle se plaçait au point de vue uniquement de médecin et d'homme. Du reste, elle ne croyait pas beaucoup. Elle cherchait. Elle cherchait à savoir si aujourd'hui on pouvait encore parler de la foi. Après Freud, c'était encore possible. Et comment on peut le faire? Alors, vous voyez, c'est important de comprendre que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir qu'il y a un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Je vous ai déjà dit, le mot Dieu n'est pas inventé par les philosophes. Il relève des traditions religieuses. Zeus, le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs, Zeus, le dieu suprême, c'est les traditions religieuses. Allah, tradition religieuse. Théos, grec, dieu, tradition religieuse. Le philosophe découvre un absolu dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de l'amour. Et il dit que cet absolu, le premier, c'est vraiment le Dieu des traditions religieuses. Mais il y atteint, lui, par par son intelligence. Alors, on va poser le problème, si vous voulez, ensemble. Kant dit donc, aucune preuve métaphysique, spéculative, pour découvrir l'existence de Dieu. Seul le point de vue de l'impératif catégorique, donc de la conscience. Alors, si je n'accepte pas l'impératif catégorique, ce que je fais, je ne l'accepte pas. Il n'y a donc pas de preuve d'existence de Dieu. La position de Kant a été critiquée par Nietzsche et par Hegel. Je vous l'ai dit. Et donc, c'est impossible, je crois, au plan philosophique, aujourd'hui, de l'accepter. Parce que l'impératif catégorique, vous savez, c'est quand votre conscience dit « il faut faire ça bon, ». Ou ça relève de Dieu, ou ça relève de vous, de nous. Moi, je n'ai jamais vu Dieu dans l'impératif catégorique. C'est un Dieu fouettard. Il est là avec son argent. Allez, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il pousse les esclaves. Mais c'est ce que Hegel dit, ça. Dieu n'est pas ça. Si Dieu existe, il n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Dieu n'est pas un tyran. Tant ne serait pas Dieu. Si Dieu existe, il est une personne, il est un esprit, et il est amour. Il ne peut pas exister autrement. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'il nous éduque. Avec un fouet, avec des peines. Non. Il nous éduque par l'amour et dans l'amour. Alors, il s'agit, après Kant, de montrer que Kant a tort. Kant n'a jamais connu ce que saint Thomas disait. Il n'a pas lu un seul mot de Thomas d'Aquin. Il a connu Descartes. Il a critiqué Descartes. Il a eu raison. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a critiqué Descartes. Alors, nous devons reprendre, et c'est l'avantage des idéologies athées, c'est que ça oblige d'aller très loin. Oportet hereses esse. Même Monseigneur Lefebvre. Oportet hereses esse. C'est dit ça. Dieu permet quelquefois le mal pour en tirer un plus grand bien. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Dieu a permis les idéologies athées pour que notre intelligence s'éveille davantage au mystère de Dieu. Et que notre intelligence essaie de découvrir d'une manière plus profonde l'existence de Dieu. J'en suis sûr, ça. Alors, comment l'intelligence humaine peut-elle découvrir l'existence de Dieu ? Vous voyez, le problème que je me pose après Kant. L'intelligence humaine peut-elle, si Dieu existe ? J'ai parfaitement le droit de mettre cette hypothèse. Je mets cette hypothèse en tant qu'homme. En tant qu'homme, j'ai le droit de mettre cette hypothèse, puisqu'il y a des traditions religieuses. Zeus. Est-ce que Zeus existe ? Quand j'entends Épictète, est-ce que Zeus existe ? Est-ce qu'il y a un créateur ? Est-ce que cet univers que je vois, il est venu par hasard. Ce que disait Monod. Le hasard. Le hasard explique tout. Le hasard n'explique rien. Vous savez ce que c'est que donner sa langue au chat ? C'est quand on dit que le hasard est au point de départ de tout. Ça n'explique rien, le hasard. Nous sommes ici ensemble par hasard. Mais non, pas du tout, je suis ici, je sais très bien pourquoi je suis ici. C'est pas le hasard. Du moins, moi je le sais, peut-être que vous le savez pas, mais moi je le sais. Donc pour moi, c'est pas le hasard. Ça fait partie de ma vie. Et c'est partie d'un choix. Et j'ai choisi. Ah non, 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 c'est le hasard. Cette conduite comme ça. Le hasard n'explique rien. Le néant n'explique rien. Alors, j'ai le droit de poser cette hypothèse. Si Dieu existe, mon intelligence est-elle capable de remonter jusqu'à lui? Ça, il faut se poser le problème avec une très grande netteté. Si Dieu existe, il est le créateur. Selon toutes les grandes traditions religieuses, Dieu est le créateur. Si Dieu est le créateur, je suis donc sa créature. Mettre un Dieu qui est absolument inconnu, avec qui j'ai aucune relation, Hegel l'a très bien dit, c'est mettre un X au-dessus de tout. Et donc, c'est parler sans savoir ce qu'on dit. Et moi, je suis venu au monde, je suis arrivé au monde par hasard. Par hasard, tout à fait par hasard. Quand je suis venu au monde, il fallait encore des parents. Je dis, il n'en faudra plus. Décision du savant. Éprouvette, sortira un être nouveau. On l'espère. Ça ne se fera pas, je crois. Mais on pense que la science dominera la création. Expliquera la création. Jusque maintenant, la science n'explique pas. Si Dieu existe, il est le créateur. Je suis sa créature. Quel lien existe-t-il entre cet univers, l'univers, qui existe, et puis moi, qui existe, chacun d'entre nous? Il y a un lien. Puisque j'ai posé l'hypothèse, si Dieu existe, il est créateur. C'est quand même moi qui ai posé cette hypothèse. Pas par hasard. Je l'ai posée, parce que je veux la poser. Et que les traditions religieuses me la montrent. Il y a donc un lien entre le Créateur et cet univers dans lequel je suis, qui existe. Et moi-même, j'existe. Quel est ce lien? Si je cherche bien, je vois que le seul lien qui peut exister entre le Créateur et moi, c'est l'exister. Seul lien. Ça peut pas être la vie. Pourquoi ça peut pas être la vie? Parce qu'il y a des réalités qui n'existent, qui ne vivent pas et qui existent. La Lune. Aujourd'hui, on en a un témoignage. Puisque la Lune existe, le Soleil existe et ne vit pas. Et la Lune ne vit pas. S'il y a un créateur, la totalité de l'univers dépend de lui. Donc, ce qui vit et ce qui ne vit pas. Or, je n'ai pas créé le soleil. Je n'ai pas créé la lune. Je n'ai pas créé les galaxies. Non. Et donc, elles dépendent du même être. La totalité de l'univers est Dieu. Un petit raisonnement très simple. Entre le Créateur et moi, et la totalité de l'univers, et tous les êtres vivants, et tous les hommes, ça ne peut être que l'être. Autrement, je tombe dans une vision anthropomorphique. Je dis, ah, selon les traditions religieuses, je suis créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu est un super-homme. La nostalgie de Nietzsche, le sur-homme. Il y avait un ancien qui disait, si un éléphant pensait si Dieu existe, il dirait que Dieu est un super éléphant. C'est un grec qui a dit ça, 4e siècle. C'est pas bête, hein? Pour montrer que tout anthropomorphisme est faux. Dieu n'a pas de nez. Bien qu'il ait dit que Dieu J'aime l'odorat des graisses brûlantes. L'odeur des graisses brûlantes satisfait Dieu. Oui, mais ça, c'est un symbolisme. Qu'est-ce que c'est que le nez pour Dieu? Je peux pas me servir de ça. Parce qu'alors, tous ceux qui ne sont pas l'image de Dieu ne seraient pas de Dieu. L'univers existait avant moi. Et l'homme existait avant moi. Donc c'est pas l'homme qui est créateur de l'homme. Et c'est pas l'homme qui est créateur de l'univers. Un peu de bon sens, hein? Très simple. Si Dieu existe, il n'y a qu'une seule possibilité de le rejoindre, l'exister. Parce que j'ai dit, si Dieu existe, et moi j'existe, tiens, je vois bien que c'est la seule manière. Vous voyez, le cordon ombilical métaphysique entre Dieu et moi. Ça, il faut réfléchir beaucoup là-dessus. En disant ça, je vais contre Kant. Je démolis Kant. Parce que Kant n'a jamais pensé une métaphysique de l'être. Jamais. Il était en face d'une métaphysique de la pensée. L'idée d'être qui venait de Wolff et qui venait de Jaurès. Le premier Kant était métaphysicien, il ne faut pas l'oublier. Il y a un premier Kant, puis tout d'un coup il a vu que ça ne tenait pas. Alors il a rejeté toute métaphysique, puisque la seule qu'il pouvait connaître, c'était la seule qui existait. Alors, si vraiment la seule manière, si Dieu existe, en tant que philosophe, je pose la question, l'hypothèse, c'est de rejoindre Dieu par l'exister. Ça, tous nous pouvons le comprendre. Alors réfléchissez là-dessus longuement. Et si vous trouvez un autre cordon ombilical entre Dieu et l'univers, vous me le direz. Moi, je n'en ai jamais trouvé. Et croyez que j'y réfléchis depuis longtemps. Le seul, c'est l'exister. Donc, si le seul, c'est l'exister, c'est très important de me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'exister? Qu'est-ce que c'est que l'être? Ça, c'est capital de se poser la question. Parce que moi, je veux connaître cette manière de rejoindre Dieu, si c'est la seule voie. On me dit que c'est très aride, mais ça importe peu, si c'est si important. Alors, je pose la question, est-ce que j'ai l'expérience de l'être? Est-ce que j'ai l'expérience de l'être? Certains disent, mais oui, dans le néoplatonisme, hein, dans le néoplatonisme, on dit, la créature est un essai participé. C'est-à-dire, c'est un être participé. Et Dieu est l'être premier. Il y a une participation entre moi et Dieu. Est-ce que j'ai l'expérience de mon essai participé? Non. Vous n'avez pas d'expérience au sens fort de l'être. Alors c'est terrible. Donc c'est l'idée d'être. Ah non. On comprend très bien qu'on se réfugie dans l'idée d'être, puisqu'on n'a pas l'expérience de l'être. Le père Mandonné, qui était un bon bourguignon, un dominicain, qui était resté un bon bourguignon. C'est pas défendu. Il disait, l'être, on en a l'expérience quand on a 40 degrés de fièvre. Parce qu'on voit un petit truc qui se balade. Alors on a l'expérience de l'être. Et alors, un cours de métaphysique, 40 degrés de fièvre, tous. On prendrait la température avant. Seuls ceux qui ont 40 degrés de fièvre ont le droit d'assister à ce cours. Les autres, non. Ils sont en dessous du niveau de la mer, ils comprennent de rien du tout. Le verbe donné en disant ça, montrer que c'est vrai. La métaphysique exigeait un effort. On ne fait pas de la métaphysique comme la vache broute l'herbe. Non. On ne fait pas de la métaphysique comme on se jette sur un plat de lentilles. Non. On fait de la métaphysique en réfléchissant. Une philosophie réaliste part de l'expérience. Quelles sont mes grandes expériences? Le travail, l'amour d'amitié, la coopération. Il y en a trois. Cherchez bien, il n'y en a pas plus. Trois expériences. Le travail, l'amour d'amitié, puis la coopération. Et là, j'ai les trois grandes parties d'une philosophie humaine pratique. Ça, c'est la base. Toute philosophie s'appuie là-dessus. La philosophie du travail. C'est ma grande expérience humaine. Comptez le nombre d'heures de travail que vous avez fourni dans votre vie. Je crois que Saint-Pierre doit avoir un ordinateur très spécialisé pour compter les heures de travail de chacun d'entre nous. C'est extraordinaire le nombre de travail, d'heures de travail qu'on a fourni dans la vie. Ce qui fait que de temps en temps, on en a assez. Hein. Et l'humanité d'aujourd'hui en a assez du travail. Parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Notre humanité, notre Europe a beaucoup, beaucoup travaillé. Et on a travaillé assez maintenant. Vive les vacances, vive le repos. Et puis quand elle est au chômage, elle pleure. Quand c'est la retraite, elle pleure, elle ne sait plus quoi faire. Le travail, la grande expérience du travail. Parler de pas la même chose, travailler, aimer. Et puis, coopérer. La communauté. Toute communauté repose sur une coopération. Le bien commun. C'est pas l'être. Mais c'est une expérience. Je sais que je travaille. Faire un cours, c'est travailler. C'est évident. Labourer, c'est travailler. Couper l'herbe, c'est travailler, si on le coupe bien. Oh, ça, il y a encore un travail mal fait. Hein. Ça existe. Mais c'est quand même du travail. L'amour d'amitié, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est aimer, désirer, rencontrer un être qui nous aime. Tout être humain a eu cette soif de rencontrer un être qu'il aime. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est donc la tradition religieuse qui me montre que l'amour d'amitié est l'expérience la plus humaine qui soit, la plus profonde. Le travail, c'est du côté de l'extension. L'amour d'amitié, c'est du côté de l'intensité. Tant qu'on n'a pas découvert un être qui nous aime, on est errant. On cherche. On fait la route, on fait les ponts, on est hippie. Tant qu'on n'a pas rencontré un être qu'on aime, on cherche. Vous voyez, l'humanité se terminera en hippie. Tout le monde sur les routes. On ne sait plus où est l'amour. On n'a pas rencontré une personne capable de nous aimer. C'est l'expérience de l'amour d'amitié. On en a une nostalgie. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui permet à notre vie de se stabiliser. on a découvert une fin, une finalité. Pas dans le travail, non. C'est l'erreur d'Apraxis. C'est l'erreur du marxisme. De confondre profondément le travail et l'amour d'amitié. Et puis la solidarité, la communauté, le bien commun. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ces trois expériences présupposent une expérience plus fondamentale. Le travail présuppose l'expérience de la matière. Parce que le travail se fait toujours à partir d'une matière. Je creuse, et il y a quelque chose qui résiste au travail. La matière, ce que les anciens appelaient la nature matière. C'est très juste. Donc, au-delà du travail, il y a la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière qui m'est donnée dans cet univers? Qu'est-ce que c'est que la nature? Tout ce qui est avant le travail, tout ce qui est antérieur au travail. Le travail n'explique pas ce qui est avant le travail. Autrement, c'est le serpent qui meurt sa queue. Et ça, c'est le marxisme. La dialectique du travail. Et ça aboutit à un fiasco. Ça ne peut pas être autrement. On aurait pu le dire tout de suite. Le travail est quelque chose qui aboutit à une matière. Et cette matière, elle échappe au travail. Elle est plus que le travail, pour moi. Elle est cette capacité d'être transformée. Tout ce qui est capable d'être transformé est matière. Tout ce qui est capable d'être transformé par l'homme est matière. Donc je découvre cela, l'univers qui est avant moi, capable d'être transformé. L'amour d'amitié, ah, il y a cette chose terrible, il y a la mort. L'amour d'amitié est un absolu, mais pas l'absolu. Et puis, je découvre que mon ami, que tout ami, est limité. Il est limité. Je voudrais bien qu'il ne soit pas limité, mais il l'est. Il y a la mort. Limite dans le temps, limite dans l'espace, limite intérieure. Alors, qu'est-ce qui est avant l'amour d'amitié? Il y a le vivant. J'ai l'expérience du vivant. Parce que la mort exige de regarder ce que c'est que le vivant. C'est le vivant qui meurt. Qu'est-ce que c'est que le vivant? J'ai donc, voyez, cinq grandes expériences. Une, deux, 3, 4, 5. 5 grandes expériences. Mais ces 5 grandes expériences impliquent toutes un contact avec ce qui est. Voyez, ces 5 expériences sont diverses et elles ont quelque chose de commun. Ont quelque chose de commun. Le travail, c'est l'homme travailleur. L'amour d'amitié, c'est l'ami, l'homme qui aime, un autre qui l'aime. La coopération, c'est l'homme travailleur qui travaille avec un autre dans la confiance. La matière, je la porte en moi, mon corps. L'homme peut être transformé par le corps. Et très vite, l'embryon, matière à transformation. Le vivant, ah, le vivant, il résiste à la transformation. Il a sa détermination. C'est pour ça que quand vous voulez transformer trop, vous tuez. transformant trop loin. Oui, situation limite de la transformation. On tue le vivant. Il faut toujours se poser la question. Quand vous transformez l'embryon, l'embryon ne peut pas résister. Et vous risquez de tuer le vivant. Il est limité aussi, puisqu'il peut mourir. Il y a quelque chose qui est antérieur à toute expérience. Vous voyez, le philosophe creuse. Antérieur au travail, la matière. Antérieur à l'amitié, le vivant. Qu'est-ce qui est antérieur à tout ça? L'être. Ce qui est. La matière existe. Le vivant existe. Et le vivant n'est pas l'être. Il est quelque chose de plus. La matière n'est pas l'être. L'être est quelque chose de fondamental et de premier que j'atteins par le jugement d'existence, ceci est. Ce jugement d'existence, qui est tout à fait premier, est ce qu'il y a de commun dans ces cinq grandes expériences. Ça, je peux tout comprendre ça. Si donc je veux savoir ce qu'est l'exister, je reviens au jugement d'existence. Ceci est. C'est comme une méta-expérience, voyez. Ceci est. C'est l'intelligence qui saisit l'être. Je ne le touche pas. Ce que je touche en touchant cette table, c'est du bois. C'est une matière tiède. C'est une matière rugueuse. Voilà ce que je touche. Mon intelligence seule atteint l'être. Et donc l'intelligence s'éveille comme intelligence quand elle dit ceci est. C'est curieux, hein? Notre intelligence autrement reste endormie, vous savez. Endormie par l'imaginaire, par des rêves. Les rêves n'existent pas. Tous les matins, quand vous avez fait un cauchemar pendant la nuit, vous dites « Ah, ce n'était qu'un rêve. Quelle joie. Je me croyais en prison. Je me croyais ligoté. Je me croyais méprisé. Oh, c'est pas ça du tout. Je suis aimé. » Vous voyez, c'est très curieux. On se réveille. Cette petite expérience passe du sommeil au réveil. C'est une très grande expérience philosophique. Je peux dire, ceci est, j'existe. Eh bien, toute la métaphysique, toute la philosophie première, ce qu'on appelle la métaphysique, toute la philosophie première, est entre l'expérience, ceci est, je suis. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire je suis. En prenant toute la force, hein. Pas la même chose de dire j'aime, je connais, je suis. Eh bien, toute la métaphysique, toute la philosophie première est entre les deux. La distance qui existe entre eux. Ceci est, je suis. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est intéressant parce que certains philosophes, surtout aujourd'hui, voudraient commencer la métaphysique par je suis. La grande expérience, je suis. Alors que les anciens, Aristote, commence la philosophie première par ceci est. Alors faut-il être moderne, faut-il être ancien? L'immense avantage, c'est que l'ancien peut avaler le moderne, et que le moderne n'avale pas l'ancien. si je commence ma philosophie première par ceci, j'aboutis à ceci, j'aboutis à je suis. Si je commence par je suis, je n'atteins jamais ceci. J'atteins comme en dehors du je suis. Donc, toute mon étude ne me dit rien sur ce qui est. C'est très curieux, ça. Et c'est très important de le comprendre. Alors, je vais essayer de vous le faire comprendre. Pour bien saisir que la philosophie première, la métaphysique, ceci est, va, je suis. Je suis n'exclut pas ceci est. Ah, attention. Si j'ai commencé par ceci est, si je commence par je suis, comme l'absolu, il exclut ceci est. Ceci est n'exclut jamais le je suis. Alors on va essayer de comprendre ça. Ceci est, je peux l'affirmer de deux manières différentes, en mettant tout l'accent sur est. Alors ceci, c'est quoi ? C'est la vache. Quand vous voyez une belle vache, elle existe, c'est évident. Une carotte, ça existe. Une table, ça existe. On dit que Raïssa, l'épouse de Jacques, Marie d'Alain, Raïssa a eu l'intuition de l'être. De Maritain continue à répéter intuition de l'être. Il ferait bien de revenir au moment où Raïssa a dit qu'elle a eu l'intuition de l'être. Et Raïssa me l'a dit. Donc je l'ai connue, je peux vous dire que c'est ça. Elle voyait le petit chat, un petit minet, tout doux. Puis elle dit, ce chat existe, j'existe. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Raïssa n'était pas le chat, et le chat n'était pas Raïssa. Donc au niveau du chat et au niveau de Raïssa, c'est tout à fait divers. Et cependant, il existe. Et j'existe. Et si je suis croyant, j'ai dit, Dieu existe. C'est encore plus extraordinaire. Il n'y a pas que le chat qui existe. Tout ce que je vois autour de moi, ça existe. Alors, on comprend ce qu'elle appelle l'intuition de l'être. C'est subitement dire, mais il y a quelque chose de commun entre le chat et moi. Entre Dieu et moi, quelque chose de commun. Il existe. D'où intuition. En réalité, ce n'est pas l'intuition de l'être. C'est l'intuition qu'il y a un rapport entre le chat, la vache, Raïssa, moi-même, à côté de Raïssa, et l'exister. Vous voyez, l'intuition me montre ce qu'il y a de commun dans des relations tout à fait diverses. C'est ça l'intuition. Ça demeure dans le domaine de la relation. Toute intuition porte sur une relation. Et sur ce qu'il y a de commun dans des relations très diverses. Mais l'artiste, subitement, il a l'intuition d'une harmonie de deux couleurs avec une autre harmonie. Il dit, ah tiens, j'avais pas vu ça. Le sculpteur, l'harmonie de l'ombre et de la lumière dans des blocs de marbre, des blocs de pierre. Tiens, j'avais pas vu ça. Et c'est ça l'intuition. En réalité, on n'a pas l'intuition de l'être. Mais on saisit qu'en effet, ceci, ça peut être n'importe quoi qui existe. Donc je ne mets pas l'accent sur ceci, mais sur est. Ceci est. Ceci, ça peut être moi, ma main, elle existe. Mon pied, il existe. Puis la vache aussi. Ça existe autrement. existe autrement que le tout. La main existe autrement que tout mon être. Mais ma main existe dans le tout. Donc il y a diverses manières d'exister. Et c'est pourtant toujours l'exister. Alors vous commencez à comprendre ce que c'est que la connaissance analogique. C'est de voir dans la diversité quelque chose de commun. Donc Raïssa a eu l'intuition d'une connaissance analogique de l'être. Mais pas l'intuition de l'être. On n'a pas l'intuition de l'être. Pourquoi ? Parce que l'être, ce n'est pas la relation. L'être est au-dessus. L'être, j'existe dans mon autonomie. J'existe dans mes relations. J'existe en pâtissant. Alors, je mets en pleine lumière être. Et j'interroge, parce que je suis très étonné de voir que l'être existe dans la vache, dans le taureau, en moi, en Raïssa. Très étonné. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez la grande interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce l'être ? Et la philosophie première, la métaphysique, commence par cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est une interrogation, c'est pas une intuition. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, comme j'interroge, je reviens à l'expérience. Vous voyez, c'est très curieux et c'est très intéressant à noter qu'au point de vue grammatical, je dis ça pour la philosophie moderne de la parole, du langage, de la grammaire. Au point de vue grammatical, vous avez le nom et le verbe. Au point de vue grammatical, le verbe est relatif au nom. Vous êtes bien obligé de le reconnaître. Alors, l'absolu, c'est pas le verbe, c'est le nom. Alors que j'ai dit juste inverse. Mais comme c'est intéressant, le langage cache la métaphysique. Le langage est obstacle à la métaphysique. C'est terrible, ça. C'est ce que Sartre a très bien compris dans ce petit livre Les mots. Il montre que c'est terrible d'appartenir à une culture très raffinée. C'est qu'on apprend à l'enfant les mots, pas du tout la réalité. Quand un gosse voit pour la première fois, on a tous assisté à cette scène, le TGV arrivé, première fois qu'il le voit. Maman, qu'est-ce que c'est ? TGV. Hein ? Ça dit bien ce que c'est. Vous mettez une étiquette sur un pot de confiture. TGV. Et l'enfant devrait se contenter de l'étiquette sur le pot de confiture. Ben non, pas du tout. Il veut la manger. Il est très réaliste pour les confitures. Il veut la manger parce que l'étiquette ne me dit rien du tout. Moutarde, confiture, pas la même chose. C'est deux mots différents, c'est tout. Après tout, c'est deux mots différents. C'est conventionnel dire moutarde. Confiture, c'est très conventionnel. Alors, la réalité est conventionnelle ? Pas du tout. La moutarde, on sait très bien comment on la fait. Et la confiture aussi, c'est pas conventionnel. Si vous dites que c'est conventionnel, ça dépend uniquement de la recette. Oui, mais la recette, il faut la respecter. Parce que la recette, elle relève sur quelque chose de réel. TGV. Et l'enfant dit, qu'est-ce que c'est que TGV ? Ouais, mais tais-toi, c'est TGV, quoi. Et la mère, à la place de donner une explication, étouffe l'enfant qui questionne. Un refoulement. constamment refoule l'appétit de l'intelligence. C'est pour ça qu'on est tous nominalistes. Parce qu'on appartient à une civilisation très, très raffinée. On se contente de bien parler. Aujourd'hui, il faudrait être comme Socrate. Et quand les gens parlent, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me souviens, ça c'est aussi une petite histoire. Ça repose. Vous savez comprendre aussi. Quand j'étais à Fribourg, chaque fois qu'il y avait un conférencier français qui venait, on était mobilisés pour y assister, pour être sûr qu'au moins il y ait trois chats à la conférence. Alors on était mobilisés et on allait à la conférence. Quelquefois ça tombait très mal parce qu'on avait beaucoup de travail, on était obligé d'y aller. Puis après la conférence, il y avait le thé ou le vin d'honneur. Alors je me souviens d'avoir assisté à une conférence extraordinairement brillante. Je ne dis pas c'est qui. Un critique littéraire. Extraordinairement brillante. Un jeune premier, je ne sais pas, 26 ans. Et dans cette conférence, je n'ai plus le sujet, tellement c'était passionnant. Il y avait tous les slogans. Tous les mots-clés, slogans. Pour 3 minutes, ça m'agaçait prodigieusement. J'avais du travail. Je me suis dit, assistons astucieusement à cette conférence. J'ai relevé tous les mots-clés. Il y en avait 10 qui revenaient. Puis une cochée. C'est passionnant d'assister à une conférence comme ça. Mais je restais en colère. Une sainte colère intellectuelle. Parce que je voyais qu'il ne comprenait absolument pas la signification de ces mots. Feu d'artifice. Ça, il ne comprenait pas. C'était visible, parce que, on voyait, quand le mot était lié à un autre, on voit tout de suite, on a compris. Substance, matière. Vous voyez ? Alors, c'était les mots transcendant, immanent. Transcendantal, tous les mots à la mode, dialectique, ça revenait tout le temps, dialectique. Alors, après la conférence, on me dit de venir prendre le thé ou le vin d'honneur. Pour les hommes, le vin d'honneur, pour les femmes, le thé d'honneur. C'était comme ça que ça se passait. Alors, je dis non, j'ai trop de travail. Et puis, je ne suis pas dans un état pour... On m'oblige de venir, parce que c'était des amis. Je dis, mais alors, je vous en supplie, laissez-moi dans le coin et ne m'interrogez pas pour savoir ce qui m'a intéressé dans la conférence, parce qu'à ce moment-là, ce sera plus fort que moi. Et c'est ce qui s'est passé. En dernier lieu, on me dit, Père Philippe, dites un peu, j'étais nouvelle arrivée à Fribourg. S'il y avait été un vieux de Fribourg, j'aurais pas fait. Mais à ce moment-là, je savais pas. Ça m'a agacé de perdre du temps comme ça. Elle me dit, monsieur, cette conférence, je l'ai suivie d'une façon très particulière. J'ai vu que vous employez constamment des mots qui sont très à la mode. J'aurais aimé que vous me disiez qu'est-ce que vous mettez dans la signification de ce mot. C'est la méthode socratique. Socrate faisait ça. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Socrate. Il disait ça tout le temps devant des jeunes philosophes férus de philosophie. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière la signification de ce mot? Alors j'ai demandé ça. J'ai dit, excusez-moi, mais j'aimerais savoir, je me mets à votre école, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez? Silence. Éloquent, glacial. Heureusement qu'après il y avait un verre de vin d'honneur. Puis je repose un second mot. J'ai posé les 10. Pas une seule signification. Alors j'ai dit, écoutez, c'est très gênant, vous voyez. Vous avez le droit, quand vous passez des examens, de vous servir de gros mots dont vous ne savez pas la signification, de gros mots philosophiques dont vous ne savez pas la signification. Vous avez le droit en examen, mais pas dans une conférence. Parce que dans une conférence, vous nous enseignez et on se met à votre école. Et donc vous devez savoir ce que vous dites. Autrement, vous vous moquez de nous. On a pris une heure de notre travail pour vous écouter. Et vous ne savez pas les mots que vous employez. Oh, il a été très bon joueur. Il m'a serré la main, il m'a dit, mon père, merci de ce que vous me dites. On ne m'a jamais dit ça. Et c'est élémentaire. Je reconnais que je n'ai pas le droit, dans une conférence, d'employer des mots qui sont à la mode et dont je ne connais pas vraiment le sens. Et dont je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne veux pas me moquer de vous et de l'assistance qui était là, mais c'est une ignorance inexcusable. Dorénavant, je vous promets que je ne ferai jamais une conférence en employant des mots qui sont des slogans. Ah, j'ai pas perdu mon temps pour un critique littéraire, artistique. Vous savez bien, quand on critique un forgeron, il fait mal son fer à cheval. On a tous vu ça, hein. Des jeunes qui allaient comme ça critiquer. Qu'est-ce que fait le forgeron? Voilà, voilà mes instruments, faites la même chose. Après, vous pourrez critiquer. On n'a pas le droit de critiquer sans avoir fait la même chose. Une chose mieux, parce que si c'est inférieur, on n'a pas le droit de critiquer. Oui, c'est ça qui est terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que la critique passe avant la connaissance. C'est plus facile d'être critique que de connaître. C'est plus facile de critiquer la métaphysique que de la faire. Alors vous êtes impitoyable. C'est que depuis Kant, et Kant là, il est fossoyeur de l'intelligence humaine. Quand on fait passer la critique avant la connaissance, c'est terrible. Alors, voyez, je reviens là-dessus, parce que c'est très important. Ceci, c'est pour vous montrer que le langage est trompeur par rapport à la métaphysique. Nous n'avons pas de langage métaphysique. Parce que Aristote le disait, la métaphysique a quelque chose de divin, de surhumain. Et c'est vrai, parce que la métaphysique exige l'intelligence de se réveiller alors qu'elle dort, elle est somnambule. On répète, on répète, on répète. Et toute sa vie, on répète. Et un jour, on sera devant la réalité. Alors, c'est ça qui est important de voir, qu'au point de vue de la grammaire, le verbe est relatif au nom. Donc, l'être est relatif au nom. Alors qu'au plan métaphysique, l'être n'est pas relatif au nom. Si l'être est relatif au nom, je n'ai aucun moyen de remonter jusqu'à Dieu. Parce que le nom de Dieu m'est complètement inconnu. Je n'ai jamais vu Dieu. La personne de Dieu me dépasse. Mais il y a un moyen par lequel je peux remonter jusqu'à Dieu. C'est l'être. Vous voyez, c'est ça qui est très important à comprendre. Que le langage, aujourd'hui, il y a telle amplification du langage, l'exemple que je viens de vous donner. On est des rhéteurs. On n'a pas le droit de falsifier la monnaie. On n'a pas le droit de falsifier le langage. Et on falsifie le langage quand on ne sait pas la physionomie du mot qu'on emploie, c'est-à-dire sa signification. Aller acheter hein, quelque chose avec de la monnaie, bon, pas des pas, c'est tout à fait égal. C'est la monnaie italienne. C'est lourd. On en a beaucoup. C'est toujours de la monnaie. Et on vous dit, mais non, c'est pas ça. On ne sent aucune espèce d'importance. C'est de la monnaie. Vous me dites que ça coûte 5 francs. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 5 francs. On falsifie. Non, on réclame. Parce qu'au point de vue économique, ah, on sait. Point de vue du langage, pas du tout. On falsifie tout. Mais je crois que ça, c'est la chose terrible du langage de notre monde d'aujourd'hui. Regardez dans les réclames. C'est tout le temps comme ça. On n'a plus le sens de la rectitude du langage. Alors, voyez qu'au point de vue du langage, le verbe est relatif au nom. Au point de vue de l'intelligence, je peux regarder le verbe pour lui-même. Et j'ai cette possibilité de passer du concret à l'abstrait. Un petit procédé de l'intelligence, très simple. Et ceci est, c'est concret. L'être, c'est abstrait. L'infinitif. La forme de l'infinitif est abstraite. J'appelle ça thématiser dans le langage moderne. Dans le langage ancien, c'était tout simplement abstraire, passer de la forme concrète à la forme abstraite. Blanc, blancheur. Regardez dans le dictionnaire. Blanc, blancheur. Qu'est-ce que c'est que blancheur? La définition du petit Larousse. Blancheur. Blanc. Alors, on donne l'exemple. Le mur est blanc. La blancheur, c'est quoi? Ce par quoi le blanc est blanc. Ce par quoi? C'est une forme abstraite. Mais tout Platon, c'est ça. L'homme en soi. Le blanc en soi, la qualité en soi. Et on croit que ça existe. Non, ça n'existe pas. Ça existe dans mon intelligence, mais pas en dehors de mon intelligence. Tandis que le concret existe dehors. Or, si j'ai une philosophie de l'expérience, je n'ai aucune expérience de la blancheur. Sauf l'affiche, le persil. La blancheur, absolue. J'ai aucune expérience de la blancheur. Cherchez bien. Vous avez l'expérience d'une chemise blanche. Ah oui, ça, oui, oui, oui. Vous avez l'expérience d'un visage pâle, blanc. Vous avez l'expérience de la neige. Et vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. Alors vous voyez, vous n'avez pas l'expérience de être. Absolument pas. Et vous en parlez comme si Fermat Donnet avait raison de dire l'être. J'ai l'expérience que quand j'ai 42 fièvres, on n'a pas l'expérience de l'être. On n'a pas l'expérience de l'être participé. Impossible. Je connais l'être à travers mon corps. À travers mes expériences intérieures. À travers mon ami, l'autre. À travers une œuvre d'art, ça existe. Voyez, je reviens à l'expérience quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je vois tout de suite que l'être se donne à moi, je dis bien se donne à moi, sous des modalités extrêmement diverses. C'est pour ça que je dirais que l'être a une signification analogique. Je ne peux pas définir l'être. C'est déjà beaucoup ça. Ça montre tout de suite ce que c'est que la métaphysique. C'est difficile. Parce que je dois revenir toujours à l'expérience. Autrement, je pars dans le bleu. Je décolle. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et très très vite. Très très vite. Il faut revenir toujours à l'expérience. Mais en même temps, je veux dépasser l'expérience. et saisir ce qu'est l'être dans ce qu'il y a de plus profond. Ce qu'est l'être en moi, ce qu'est l'être dans la vache, ce qu'est l'être dans la table. Vous réfléchissez sur ce que c'est que l'être. Une fois que vous avez cette réflexion, vous voyez et vous découvrez ce qu'il y a de premier dans l'être.